France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, désormais le vendredi de 10h à 11h. Et ce matin, un nouveau club de lecture qui font du bien, pas des livres mièvres, des livres inconsistants, non, des livres qui agissent comme des reconstituants, des refuges pour traverser une actualité morose, des livres à déguster par temps gris avec un bon plaid et une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud. Nos prescripteurs ce matin, les journalistes Christy Lapelle-Edouel, Yolaine de Chano et le libraire Sylvain Gédrézac. Et puis on s'intéressera à la culture en général et à la lecture en particulier comme instrument de santé publique. C'est l'objet de la tribune Monde du psychiatre David Gourion que nous recevons en début d'émission. Un duo qui devrait être remboursé par la Sécu, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Odissino. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie dans la vraie vie, quelle est votre punchline philo de la semaine ?
Eh bien l'actualité parfois nous porte et au vu de cette actualité politique qui nous a animés cette semaine... Nous allons aller du côté de cette punchline d'Aristote. L'homme est un animal politique.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, quelle est votre ordonnance de cinéthérapie cette semaine ?
Bah écoutez, ça tombe bien, moi aussi, c'est une ordonnance politique. voilà, il va falloir voter pour des films.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, le magazine qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
C'est-à-dire que vous êtes plus intelligent si vous lisez. Mais si vous vous frottez à des choses que vous ne connaissez pas, fatalement, vous allez ouvrir votre esprit. Et celui qui est concentré sur lui-même, qui ne pense qu'aux jeux vidéo, qu'à ses histoires professionnelles, etc., fatalement, son esprit, ce n'est pas un esprit rabougri, n'exagérons pas, mais ce n'est pas un esprit qui s'ouvre aux autres, qui s'ouvre à l'aventure. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Donc je trouve que lire, effectivement, vous rend, disons, plus sensible, plus intelligent, plus avisé, plus fin que beaucoup d'autres gens qui ne lisent pas.
Le regretté Bernard Pivot sur France Info en 2018. Bonjour Christy Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, conférencière et autrice de ces livres qui nous font du bien, publiés chez Marabout. Bonjour Yolaine de Chano.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef du Parisien. Week-end à la une cette semaine ?
Eh bien à la une cette semaine, on parle de voiture, l'histoire d'amour contrarié entre les Français et la voiture. Elle est interdite de cité, on lui préfère les mobilités douces, mais deux tiers des Français pensent qu'elle est toujours indispensable, synonyme de plaisir et aussi de liberté.
Bonjour Sylvain Gédrézac.
Bonjour Ali.
Vous êtes libraire au Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, et c'est sur la ligne C du RER, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. C'est à deux pas de Versailles, c'est à 50 ans en Yvelines. Venez, on est là.
Sylvain, Yolaine, avant de vous demander quel est le livre qui vous a vraiment aidé à un moment de votre vie, j'avais posé la question le mois dernier à Christy Lapelle-Edouel, j'aimerais qu'on accueille le docteur David Gourion, médecin psychiatre. Bonjour Docteur Gourion, bienvenue.
Bonjour Ali.
Entre deux consultations, vous nous accordez un peu de temps. Vous avez donc publié dans Le Monde une tribune intitulée « Il est temps d'assumer que la culture peut devenir un instrument de santé publique ». Alors, depuis l'aube de l'humanité, vous l'écrivez dans cette tribune, nous savons que l'art soigne. Dans la Bible, le roi Saül, tourmenté par des crises d'angoisse et de mélancolie, se calmait quand David jouait de la harpe.
Alors, je ne sais pas si on peut jouer de l'harpe aux patients. En tout cas, moi, je ne suis pas très doué dans ce domaine-là, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a énormément à lire de littérature scientifique qui montre, et on le savait, on le pressent, on le comprend très bien, que l'art, le beau, peut faire du bien, et faire du bien pas uniquement aux gens qui vont bien, mais aussi aux personnes qui ont des difficultés, des problèmes émotionnels. Il y a eu un rapport de l'OMS en 2019 qui compilait plus de 3000 études, donc il y a un vrai intérêt à le faire. Alors, l'Angleterre a lancé, il y a déjà une vingtaine d'années, cette notion de prescription culturelle et sociale, et ça peut être des ateliers artistiques, ça peut être des visites de musées, ça peut être des visites de jardins, etc., des concerts. Et je me disais que dans l'époque actuelle, en plus quand même, on a un pays incroyable du point de vue de l'exception culturelle, qui on a quand même une richesse incroyable. Et donc le gouvernement a fait de la santé mentale la grande cause nationale, et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à penser autour de ça, et qu'on pourrait tout à fait, et je pense qu'il serait assez simple, en réalité, de mettre en place un système de prescription culturelle pour le plus grand bien des personnes en souffrance.
Vous le disiez, David Gourion, en 2019, l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport sur le rôle de l'art dans l'amélioration de la santé et du bien-être, avec une compilation de plus de 3000 études internationales. Conclusion, l'art contribue à la prévention, à la gestion et au traitement des troubles de santé, notamment mentaux, avec des effets sur la régulation émotionnelle, l'estime de soi, la réduction du stress et l'inclusion sociale. Vous souscrivez donc, docteur Gourion, à l'idée que les médecins puissent faire des prescriptions culturelles ?
Absolument, et c'est l'occasion justement de marquer cette année Grande Cause Nationale Santé Mentale par des actions concrètes. Je pense que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place et qui serait extrêmement utile pour nos patients.
De quelle façon la lecture, c'est notre sujet ce matin, peut contribuer à notre santé mentale et à notre bien-être ?
De plein de façons différentes. D'abord, je pense que l'histoire des autres et les métaphores et les symboles et la poésie sont une façon d'échapper évidemment au réel. Je pense aussi que quand on lit, encore faut-il aller suffisamment bien pour lire, parce que parfois, les patients, quand ils sont très déprimés, très mal, n'y arrivent même plus. Mais quand ils y arrivent, nous, on les incite beaucoup parce qu'on sait que ça leur fait du bien. Et puis, il y a aussi un effet de stimulation cognitive. Ça fait travailler les petites cellules grises, donc l'imagination, la créativité. Et puis, je trouve aussi, ça c'est absolument fondamental dans notre société d'aujourd'hui, ça réduit aussi le sentiment de solitude. Mmh. On est seul avec son livre, mais on n'est jamais seul parce qu'on est là avec un auteur, avec des personnages.
Avec des tas d'amis autour de nous, les livres qui sont des amis précieux. Chrysilla Pelédouel.
Oui, alors là, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire David Gourion, bien sûr. Et j'ajouterais que le fait de se projeter, alors là, je parle des romans, là, de se projeter dans un personnage permet aussi, et ça on le sait, également de développer l'empathie. Et on sait en particulier que les enfants qui lisent ont une capacité d'empathie plus grande que ceux qui, par exemple, sont coincés devant les fameux jeux vidéo et tout ça. Et j'ajoute que j'ai lu ces jours-ci que la Suède est en train d'autoriser la prescription médicale de lecture et d'activités artistiques de tout genre.
Yolaine de Chano.
Oui, ça me fait penser à l'hôpital, les bénévoles qui viennent lire des livres, notamment pour les enfants. Et ils le disent, les médecins le disent, les associent à ces enfants qui sont malades et hospitalisés, parce que justement, ça les apaise d'écouter une histoire, même s'ils ne savent pas lire, d'écouter et de se projeter sur autre chose.
Guillemette Odissino.
Il y a cette notion de se décentrer. Mmh. Enfin, je pense que vraiment, l'histoire des autres, même le décor des autres, et même les emmerdes des autres, je pense que c'est une manière à la fois d'être au monde et de relativiser ses propres douleurs. Donc, enfin, forcément que la fiction, c'est quand même, enfin, être plongé dans la fiction pour oublier ses propres frictions, si je peux me permettre.
Tiens, docteur Gourion, tant que je vous ai, notre ami Thibaut de Saint-Maurice est en train de faire des mots fléchés pendant que nous discutons. Est-ce que ça indique des difficultés particulières d'un point de vue psychologique ?
Je me concentre, je suis beaucoup plus concentré à votre écoute.
Moi, je souscris pleinement à ça, et d'ailleurs, merci de relayer cette tribune. L'art et la culture sont des médicaments qu'on peut prescrire sans aucun effet secondaire.
Merci beaucoup, docteur David Gourion. Votre tribune est à lire sur le site lemonde.fr. Alors, Yolaine de Chano, Sylvain Gédrézac, un livre qui vous a peut-être permis de surmonter une épreuve au cours de votre vie, Sylvain Gédrézac.
Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de Tristesse. Bonjour Tristesse. Ça, c'est de l'inkipit. C'est une accroche, c'est comme dans le journalisme, quoi. C'est quelque chose qui vous prend par la main. L'inkipit de Bonjour Tristesse, sorti en 1954.
Et vous avez lu que ça, et ça vous a
suffi. Non, mais alors justement, ça m'a amené vers le livre. Et grâce à ce livre, je me suis vautré dans la littérature française. Grâce à ce livre, j'ai découvert la limpidité. La ligne claire en BD, c'est la même chose. J'ai découvert les sensations qu'on partage avec les héros, le rythme, le style, la petite musique, la vitesse saganienne et le personnage. Car les livres de Sagan, c'est avant tout des personnages. Et ici, c'est Cécile dans Bonjour Tristesse. C'est une narratrice. Moi, je l'ai lu, j'avais 14 ans. Donc évidemment, quand on a une narratrice qui vous dit « Le péché est la seule note de couleur qui subsiste dans le monde moderne » ou qui vous dit « Idéalement, j'envisageais une vie de bassesse ou de turpitude. » Évidemment, à 14 ans, vous êtes client. Elle est en vacances au bord de la mer, Cécile. C'est le juillet, il fait chaud. C'est vraiment sur la Méditerranée. Elle est avec son père et son papa est avec Elsa, sa maîtresse. Donc déjà, en 1954, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais lu. Là-dessus arrive une ancienne amie qui s'appelle Anne, qui va tout bousculer, parce que Anne, contrairement à Elsa, bah, elle est charismatique, elle est belle, elle est intelligente. Cécile voit tout ça, elle a le sens de l'observation, elle n'est dupe de rien. En réalité, je suis tombé amoureux de Cécile, clairement, parce que c'est la sensualité même. Donc ce texte, qui est absolument solaire, est absolument une merveille à lire, mais il y a le double effet qui se coule. Il y a le contexte 1954, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on n'a pas le droit d'ouvrir un compte bancaire quand on est une femme. On n'a même pas le droit de... Enfin, il faut l'autorisation du mari, en tout cas. On n'a même pas le droit de postuler pour avoir un emploi. Donc, voilà, la jeune Sagan, qui s'appelait en fait Françoise Quarez, qui prend un nom de plume proustien, arrive en 54. Elle a 17 ans, tout comme Cécile. Elle débarque et c'est une déflagration. On oublie même l'impact de Bonjour Tristesse aujourd'hui, il faut quand même en être conscient. Elle a eu des menaces de mort, hein. C'est un peu comme...
Ah oui, ça j'avais oublié ça.
Virginie Despentes, il y a quelques années, aussi a eu ça. Je veux dire, c'est un livre qui est absolument d'une modernité folle. Il faut le lire aujourd'hui encore.
Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, en poche évidemment. Et vous, Yolaine de Chano ?
Alors moi, ça va être beaucoup plus court. C'est la saga Malocène, qui est beaucoup plus longue, de Daniel Pennac. Je l'ai lu quand j'étais toute jeune, à un âge où on est dans une bibliographie très corsetée, ouais. Où on nous fait lire des livres obligatoires, et tout d'un coup...
Vous étiez quoi, au collège, au lycée à l'époque ?
Au collège, ouais. Jeune au collège, et tout d'un coup, on découvre ce livre avec des personnages, c'est les caractères de la Bruyère, en fait, des personnages tous plus différents les uns que les autres, avec des possibilités de parcours de vie complètement dingues. Le scénario est inimaginable. Si Daniel Pennac l'avait voulu, il aurait fallu qu'il l'invente. Et donc, ça ouvre un champ des possibles complètement dingue. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut devenir quelqu'un, quel que soit le caractère qu'on a, la personne qu'on est. Ce bouc émissaire, a priori mal vu dans une société, c'est le héros de cette saga. J'ai trouvé ça d'un rafraîchissant, et la saga des Malocènes, pour moi, elle nous enlève des œillères.
Il y a la fée carabine, Au bonheur des ogres, enfin, voilà, ça c'est vraiment à lire, c'est une vraie jouissance de lecture. Tiens, on commence ce club de lecture avec vous, Christina Pelédouel. Vous avez choisi le nouveau livre de Brice Holmes, Quelque chose comme de l'or, c'est publié chez Calman Levy, et ça se passe dans la Louisiane francophone, au milieu des bayous. Pourquoi ce choix ?
Quelle histoire, les amis, ce roman, c'est absolument incroyable. Alors, je précise que Brice Holmes a lui-même vécu en Louisiane, à proximité de la ville de Lafayette, qui est d'ailleurs la région où il situe son nouveau roman. Et l'histoire est dingue, c'est merveilleux. En plus, la région de Louisiane, il y a eu quelques romans, mais pas tant que ça. Et celui-là, il nous emporte, mais c'est une espèce de furie, de drôlerie, de poésie, d'humanité. Alors, ça parle de solidarité, de liberté. Voilà, alors ça se passe donc dans cette région Cajun, où les habitants parlent un français très particulier, qui est le français cajun, avec un accent que je ne pourrais pas reproduire, un vocabulaire particulier, etc. Et un groupe de vieux musiciens cajuns vivent dans une maison de retraite. Et voilà que la maison de retraite se casse la gueule. Ils ne peuvent plus payer, c'est la fin. La maison de retraite elle-même tombe en miettes. Enfin bon... C'est la panique totale. Et la jeune fille qui est là et qui fait les repas, etc., se dit qu'il faut trouver une solution. Mais il arrive à un moment donné, une espèce de coup de baguette magique. D'ailleurs, il y a plein de magie dans ce livre, au passage. Et un inconnu a légué une maison au groupe qui se trouve là, dans cette maison de retraite. Alors, il va falloir emménager, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance, on découvre que cette maison cache beaucoup de secrets, qu'il y a aussi des fantômes qui arrivent dans les miroirs, beaucoup de choses bizarres, et qu'il y a peut-être, sans doute, un trésor caché. Mais alors, d'où vient-il, ce trésor ? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on découvre au fur et à mesure, c'est que la guerre de sécession, et en particulier le problème des esclaves au moment de la guerre de sécession, et ceux qui ont réussi à rejoindre l'armée Voilà. Tout s'est embrouillé, tout s'est emmêlé. Et, mais voilà, la fin, il va y avoir un retournement invraisemblable. Et en tout cas, moi, je vous dis que quand on termine ça, on est non seulement enchanté, mais en plus, on a envie de prendre un billet d'avion pour partir tout de suite en Louisiane. Moi, j'en ai vraiment très envie.
Guillemette, vous êtes mon baromètre, ça vous donne envie, elle vous a donné envie ?
Absolument, mais absolument. En plus, moi, enfin, vous mettez déjà, vous mettez des fantômes et des vieux qui essayent de des vieux musiciens qui essayent de tenir le cap au milieu de la tempête. Moi, je prends à fond.
Un livre qui fait du bien en ce moment, bah, c'est le nouveau livre de Brice Holmes, Quelque chose comme de l'or, et c'est publié chez Kalman Lévy. Allez, il est déjà l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha.
Oh, chère Ali, vous m'avez manqué. J'étais absente un seul vendredi. Mais j'ai l'impression d'avoir loupé tant de choses, car tout va si vite en ce moment, tout se répète, tout bégaye. Le nouveau gouvernement, c'est bien celui d'Edouard Balladur, hein. Enfin, je suis perdue un peu, bon. Alors, en même temps, grâce au cinéma, j'ai l'habitude des suites et des failles spatio-temporelles. Terminator 2, Retour vers le futur 2, Un jour sans fin. L'avantage avec le cinéma, Ali, c'est que toutes les situations les plus absurdes et affolantes ont déjà été inventées, anticipées, par des scénaristes. Alors, partant du principe que le monde est devenu un Gorafi géant, je pourrais, oui, comme ciné-thérapie politique un peu brutale, vous conseiller de la science-fiction, comme Le Soleil Vert de Richard Fletcher, qui résout définitivement le problème des retraites, hein, puisque les vieux y sont transformés en comprimés alimentaires pour les jeunes. Ça, c'est fait, pas besoin de réformer. Mais moi, Ali, ce qui me fait vibrer, en fait, toujours et encore, ce sont ces films où la chose politique est montrée dans toute sa complexité, sa réalité et sa noblesse. Prenez l'exercice de l'État, de Pierre Scheller, avec son ouverture insensée, où une femme nue traverse un salon pour s'engouffrer dans la gueule d'un crocodile. Alors, ce n'est pas une métaphore du grand capital, enfin quoique, mais un rêve, celui du ministre des Transports chargé d'un dossier impopulaire, la privatisation des gares.
Bertrand, tu n'es pas là pour refaire le monde. Tu es là pour reprendre les 5 points de sondage qu'on va perdre. L'obsession, ce sera désamorcer, désamorcer, désamorcer.
Ça va ?
Ah, j'ai fait une fausse route.
C'est con pour un ministre des Transports.
4000 contacts et pas un ami.
C'est ça, votre problème, vous brassez du vent, vous n'avez rien dans les mains. Rien, par votre petite ambition.
C'est une révolution du territoire. Vous ne faites pas une révolution avec des doutes.
Alors, ce film passionnant rappelle que le pouvoir dévore ceux qui pensent pouvoir l'exercer et que, alors, qu'on ait le charisme d'une huître ou de Robert Badinter, que l'on soit démagogue ou dévoué, bah, c'est pas fastoche quand même d'être au service de l'État.
Et le regretté Michel Blanc est extraordinaire en chef de cabinet.
Ah oui, alors grâce à lui, on peut se remettre à croire, je vous jure, hein, en la fragile beauté de la mission publique. La séquence où il récite le discours d'entrée de Jean Moulin au Panthéon peut être entendue comme les plus beaux mots d'un amoureux sincère de la République. Mon deuxième conseil, se refaire un petit gabin impérial en président du Conseil.
Ce qui n'a pas varié, c'est ma notion de ce que doit être un chef de gouvernement. Cette notion-là ne variera jamais.
Pensez-vous que je sois capable, et là mieux qu'un autre, de résoudre les problèmes syndicaux et d'éviter la grève générale qui menace ?
Pour des raisons particulières, je vous ai longtemps pris pour un salaud et je constate avec plaisir que là aussi j'avais 15 ans d'avance.
Alors pourquoi disiez-vous tout à l'heure que j'étais un gouvernant possible ?
En tout cas pas plus mal qu'un autre.
Pas plus mal qu'un autre. Décidément, vous êtes plus ambitieux pour vous que pour votre pays. Voilà tout ce qu'a voulu y souhaiter. Un homme pas plus mal qu'un autre. Quand on a cette ambition-là, on ouvre un bazar. On ne gouverne pas une nation.
Ah là là, ils savaient causer, hein, les hommes politiques, à une époque. Et c'est fou, vous verrez, comme beaucoup de sujets de ce film d'Henri Verneuil, adapté de Simenon, et qui se déroule pendant la Troisième République, résonne, hein, vraiment, avec nos problématiques d'aujourd'hui. Alors Gabin se met dans les pas de Clémenceau, en fait, hein, pour incarner Émile Beaufort, président du Conseil, qui vomit l'arrivisme et se bat contre le monde de la finance. Il se définit comme un mélange d'anarchistes et de conservateurs dans des proportions qui restent à déterminer. Pour cet Européen convaincu, les valeurs de la politique sont la morale, l'indépendance et le bien de ses concitoyens. Attendez, j'essuie une larme, je reviens. Dans le feu d'artifice de dialogue de Michel Audiard, je vous en cite un, devenu célèbre. « Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre !» Oui, bon, bah, y a aussi des poissons volants qui ne constituent pas la majorité du genre.
Et pour prendre un peu de recul avec la pantalonnade politique que nous sommes en train de vivre, deux films, L'exercice de l'État de Pierre Scheler et Le président d'Henri Verneuil. Merci Guillemette Todisino, la cinéthérapie est à podcaster et à partager sur l'appli Radio France. Dans un instant, la suite de notre club de lecture. On écoute Alain Souchon, Jamais content, une chanson de 1977.
Que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires, qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire. Carrément vulgaire, très ordinaire. Puis on m'a enrôlé d'office à peau dans les parachutistes. Ils voulaient que je tombe des avions accroché à un champignon. Je leur ai carrément dit non, pas beau l'avion. Carrément dit non, pas beau l'avion. Je me suis sauvé en Angleterre, je faisais le Frenchman super lover. Je me teignais les cheveux, les sourcils pour être plus brun, pour faire carrément débile, je trouve pas mon style. Carrément débile, je trouve pas mon style. J'ai chopé la mélancolie en faisant des chansons sur mon lit. Une commande pour chanteur, pas bien. Fallait que je dise France, américain. Ça m'a carrément miné, tout dégoûté. Carrément miné, tout dégoûté. Promoteur, canaille, que je fasse de sous-table homme de paille, construire des tours de carton bleu pour que les petits garçons mettent leur jeu. J'y ai carrément mis le feu, bien fait pour eux. Carrément mis le feu, bien fait pour eux. Que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content.
Alain Souchon interprété Jamais content.
Ali Rebéi.
Regardez par exemple ce livre. On voit tout de suite qu'il est nul.
Grand bien vous fasse.
Il n'y a rien de stabiloté. Alors que là, j'ai tout stabiloté. Ça, c'est un bon livre. C'est du lourd.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, c'est le club de lecture qui font du bien avec les journalistes Christy Lapelle-Edouel, Yolaine de Chano et avec le libraire Sylvain Gédrézac. Alors Sylvain Gédrézac,
oui.
Vous conseillez un livre que j'ai adoré, que j'ai lu l'été dernier. Ça s'appelle Encore 25 étés de l'allemand Stéphane Schaffer, traduit par Stéphanie Lux et publié chez Actes Sud. Une merveille de 134 pages.
Oui, Ali, vous avez déjà vérifié, checké en bon français vos mails pendant les vacances estivales. Mmh. Oui, non, vous l'avez pas fait.
Non, je l'ai pas fait.
C'est faux. On le fait tous. Non, on scrolle, on ne déconnecte pas. Même si on lit un peu, on s'interrompt pour regarder une petite vidéo et puis deux petites vidéos. Justement, ce roman est fait pour tout le monde. Le narrateur n'a pas de nom. Donc en fait, ça peut être n'importe qui, c'est vous, c'est moi. Le narrateur a une petite maison de week-end, de vacances, avec un petit lac à côté. Il y va souvent, Mais en fait, il ne le regarde même pas dans les yeux, ce like. Il ne fait pas plouf. Un jour, il décide de faire plouf. Il est encouragé par un jeune homme qui est là. Et ça lui ouvre des horizons à notre narrateur qui, effectivement, n'arrive pas à faire taire sa charge mentale, n'arrive pas à prendre le temps de faire plouf. Il y a un dialogue qui s'instaure entre ce mec totalement zen qui s'appelle Karl, qui est en fait un fermier. On sent bien qu'il a vécu des choses difficiles, mais il a levé le pied.
Il produit des pommes de terre.
Il produit, et c'est son Eldorado, son champ de patates. J'avais jamais vu de champ de patates dans un livre. Et bien là, franchement, j'ai eu envie d'y aller. Il explique au narrateur qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de paresser, il faut faire un pas de côté, il ne faut pas hésiter, il faut que ça devienne une philosophie.
Pourquoi est-ce que ce livre vous a touché à ce point, encore 25 étés, de Stéphane Schaeffer ?
Il parle à tout le monde et il remet les idées en place. En fait, le Karl est un extraterrestre. Jamais on croise des gens comme ça. Enfin, si, peut-être vous. Moi, je n'ai pas eu cette chance. La littérature peut nous aider à rencontrer des gens comme ça, qui nous donne des personnages, qui nous donne de vrais conseils. Ce n'est pas un livre de développement personnel, c'est un vrai roman avec une histoire, des personnages. C'est un livre court. La brièveté des romans dans la littérature, c'est une force. On parlait de Bonjour Tristesse tout à l'heure. C'est 122 pages, ça se lit en une après-midi et ça donne un rayon de soleil absolument génial. Allez-y, c'est un livre qu'on n'attendait pas, c'est un gros succès.
Encore 25 étés de l'allemand Stéphane Schaeffer et c'est chez Actes Sud, Yolaine de Chano, un très beau livre richement illustré de Camille Jounot. Ça s'appelle Ulysse, Athéna et les autres et c'est publié aux éditions du Chêne.
Oui, alors je sais que les auditeurs de Grand Bien Vous Fasse connaissent bien Camille Jounot. Les internautes aussi, ceux qui suivent la Minute Culture, son compte Instagram sur l'art qui est toujours très malin, très drôle surtout. Et on est nombreux, moi la première, à avoir acheté l'année dernière il y a quelques années, le livre d'histoire de l'art intitulé « Léonard, Frida et les autres, 8 siècles de peinture racontées en 100 artistes ». Elle récidive, elle s'attaque à la mythologie gréco-romaine dans son nouvel ouvrage « Ulysse, Athéna et les autres ». Alors comme pour le précédent, les tableaux de grands maîtres sont accompagnés de fiches qui sont très très bien faites, qui raconte l'histoire de ce tableau qui décrypte les symboles qui donnent à voir des clés. C'est un livre d'histoire de l'art. Mais il est beaucoup plus drôle, malin, bien fait que les autres. Alors, je ne l'ai pas lu bout en bout. C'est le type d'ouvrage qu'on pose sur une table basse et qu'on consulte au fil du temps. Mais il suffit de l'ouvrir au hasard. On tombe sur un tableau représentant la chute d'Icare. Et la jeune femme, Camille, nous résume le mythe de Dédale et son fils Icare. Elle explique que c'est l'histoire d'une faute professionnelle qui conduit à un licenciement pour faute grave, que pour s'échapper de prison, Icare prend un coup de soleil et que ça se termine dans un bain de sang. Ça nous rend un peu plus glamour, ou en tout cas, ça nous donne des clés pour rentrer un peu plus facilement dans la mythologie gréco-romaine. Et puis sinon, au cas où, page 295, elle nous a dessiné une carte des enfers. Ça remet un petit peu les choses au clair. Voilà, tout est à l'avenant. Il y a de la peinture contemporaine, de la peinture plus classique. C'est très très chouette. C'est, je pense, un beau cadeau à offrir en fin d'année.
Ulysse, Athéna et les autres de Camille Jounot. C'est publié aux éditions du Chêne. Alors, Christina Pelledouelle, pourquoi avez-vous choisi le roman des regards de Daniel Pénac et Laurent Mallet, publié chez Philippe Ray? Laurent Mallet est photographe, hein?
Il est médecin aussi, ce qui est quand même une double casquette intéressante. Et bien parce que c'est un bijou. Voilà, je suis tombée complètement en arrêt devant ce livre. Alors Daniel Pénac, le roman des regards, c'est tout simple. Pénac qui écrit un texte donc qui va accompagner les photos de Laurent Mallet, tombe tout à fait par hasard au cours d'une balade dans un musée sur un type très bizarre qu'il ne connaît pas et qui est en train de photographier à la volée des spectateurs de tableaux. Il ne comprend pas de quoi il s'agit, il le suit. Et là, il découvre petit à petit qu'en fait ce type très bizarre a une espèce de manie, il photographie les spectateurs de tableaux de dos, regardant le tableau qui les regarde, et il y a une espèce de circulation du tableau au spectateur, à ceux qui regardent les photos, et surtout, il trouve des correspondances entre les spectateurs de photos avec le tableau qui sont absolument invraisemblables. Alors au début, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il a mis en scène, c'est improbable, on peut pas obtenir des résultats comme ça. Eh ben non. Eh ben non. Alors, il en a pris des centaines et des centaines. Et
tiens,
alors,
là, par exemple, je vois ce petit garçon qui se contorsionne devant un tableau abstrait.
Oui.
Elle est géniale, cette photo.
Celle-là est géniale. Celle qui est à côté devant du buffet d'une jeune femme qui est complètement tordue aussi, en le regardant exactement comme les personnages du tableau. Enfin, c'est remarquable. Et Daniel Pénac, avec son talent, enfin, Daniel Pénac, on adore, on en a parlé tout à l'heure, que je vénère, que j'adore, qui me fait rire, a écrit un texte, mais évidemment, d'une intelligence extraordinaire, d'une amitié extraordinaire avec Laurent Mallet, et d'une tendresse, d'un humour, mais c'est irrésistible. Alors là aussi, si vous voulez faire un cadeau de fin d'année, mais je vous en prie, allez-y. Et au passage, on va dire à Daniel Pénac, ici, dans cette émission, on l'aime beaucoup, beaucoup.
Le roman des regards de Daniel Pénac et de Laurent Mallet, c'est publié chez Philippe Ray. Sylvain Gédrézac, oui. Une BD publié chez Delcourt et Mirage, ouais. C'est signé Lupano et Panation,
ouais.
Ça s'appelle Un océan d'amour, et on en a bien besoin en ce moment.
Oui, alors cette BD m'a laissé sans voix, d'ailleurs les personnages aussi, puisque attention, dans cette BD, pas de bulles, pas de phylactères, hein, c'est le mot savant pour bulles.
Arrêtez de crâner.
Ça fait plutôt pas mal dans une conversation en ville. Donc, c'est pas la seule BD qui n'a pas de bulles. Il y a aussi Quand j'ai froid, qui est une autre BD de Valentine Choquet, qui est absolument géniale, il faut la lire. Là, pour celle-là, je vais pas vous mentir, au début, on me l'a conseillé, en fait, j'ai dit, bon, je vais peut-être pas y aller, parce qu'une BD sans texte, comme quoi on a des a priori, une BD sans texte, je me suis dit, ça va pas me plaire. C'est faux, erreur fatale. D'ailleurs, en littérature, hein, souvent, il faut aller vers des choses qu'on n'aime pas a priori. On fait des rencontres absolument géniales. L'histoire d'un océan d'amour est riche. Lupano et Panaccione nous plongent en Bretagne. Une histoire 100% blé noir. Mm-hmm. Une histoire qui commence autour d'une galette.
Pas mal.
Fabriquée par une bigoudaine avec la coiffe et tout et tout. Et cette bigoudaine a un petit mari qui est un petit peu bigleux, qui est très très mignon. Allez le voir. Il est pêcheur professionnel. Donc il part tous les matins sur son chalutier. Et tout de suite, c'est très beau. On sent qu'il y a une relation d'amour entre les deux, cette grosse bonne femme et ce petit mec bigleux. On sent que ça vient de très loin. On est tout attendri. Le pêcheur s'en va un matin. Il est avec un comparse, un acolyte qui disparaît assez vite. Ils partent. Il fait nuit. Donc le jour se lève. Ils sont sur la mer. Tout va bien. Ils commencent leur travail. Et là, l'impensable arrive, et je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce qu'il faut lire la BD. En tout cas, c'est très cinématographique, c'est une excellente idée de scénariste. Le petit bonhomme, le petit pêcheur, va vivre beaucoup d'aventures, on les suit avec plaisir. Sa femme aussi, la bigoudaine, l'attend, elle attend son Ulysse sur le port le matin, le soir.
J'aime bien la bigoudaine.
Il ne revient pas. Et elle décide de faire deux, trois petites choses, notamment d'aller voir une voyante qui lit dans la galette.
C'est formidable.
Ça. Ça s'appelle Un océan d'amour. C'est signé Lupano et Panaccione et c'est publié chez Delcourt et Mirage. Alors, Yolaine de Chano, que racontent les sept vies extraordinaires de Devi Kumari? C'est signé Vikas Swarup, c'est publié chez Belfond. Vikas Swarup, qui est l'auteur de Slumdog Millionnaire.
Oui, parce qu'on entend Vikas Swarup, on ne fonce pas tout de suite sur le livre. Hein, on ne connaît pas cet auteur, il est indien, il a 64 ans, ancien diplomate. Et puis tout d'un coup, on nous parle de Slumdog Millionaire, on se dit, oulala, oui, on y est. Il y a quand même eu 8 Oscars pour le film qui a été adapté par Danny Boyle. Je pense que vous avez un peu tous en tête l'histoire de ce jeune prodige indien. Dans les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari, les mêmes ingrédients sont repris, et ça marche. 400 pages à dérouler le destin d'une petite indienne née évidemment dans la mauvaise caste. Elle est pauvre, elle va vite être orpheline. Elle va devoir se débrouiller seule en faisant preuve d'une intelligence et d'une vivacité impressionnante. On pense à ce jeune indien de Slumdog. Le livre débute par son enlèvement. Un type la ligote, il interpelle la jeune femme, alors là je cite, « Tu n'es qu'une traînée des bidonvilles, tu as menti, volé, trompé et même tué pour tracer ton chemin, la police de 4 états est à ta recherche. » Tout cela est vrai, on va le découvrir au fil du roman. Il lui propose alors des aveux complets qu'il enregistrera et qu'il vendra aux enchères au plus offrant. C'est-à-dire qu'il le vendra aux enchères à celui qui veut se venger d'elle à tout prix et qui est prêt à verser la somme la plus coquette pour s'en charger en fait. Devi Kumari, qui changera de nom au gré de ses déplacements, au gré de ses 7 vies finalement, commence donc à raconter son histoire. On découvre que si elle a commis tous ces crimes, c'est pour se protéger d'un vol ou de plusieurs vols, d'un viol ou de plusieurs viols, ou tout simplement pour survivre, manger. Et c'est bien sûr palpitant, très bien raconté. On est en Inde, ça sent l'Inde, c'est épicé. On aimerait presque le lire en anglais pour avoir ce jargon, ces expressions qu'il peut y avoir comme ça dans les rues indiennes. Sa vie à cette Devi est émaillée de péripéties qui sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. À travers ces aventures, surtout, en fait, on découvre, on redécouvre l'impuissance d'une jeune indienne, d'une petite fille de basse caste, face à la police, à la justice, face à l'État, en fait, un État démocratique, mais qui ne va pas l'accompagner. Et puis, toujours face aux ambitions et aux désirs des hommes. Elle n'aura qu'un seul véritable allié qui est prêt à mourir pour elle, c'est son chien Cherou. Et si je vous conseille ce roman, c'est parce qu'il est ingénieux, il est drôle, et que ce regard d'un enfant sur le monde des adultes est très intéressant.
Et je le connais, ce regard de Guillemette Audicino, qui lorgne sur les 7 vies
tout
extraordinaires de Devi Kumari, les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari, de Vikas Swarup, et c'est publié chez Belfond. Pour ma part, je me suis régalé à lire La cuisine des grands écrivains d'Emeline Bernard et Marc Lefrançois. C'est vraiment succulent et on y apprend un tas de choses. Vous aurez très envie, en lisant ce livre richement illustré, de cuisiner le saucisson brioche de Louise Labbé, la soupe au pistou de Jean Giono, le potage glacé aux avocats de François Sagan, la tarte aux oignons de Marcel Pagnol, la pizza automate de Simone de Beauvoir, les petits sablés de Fred Vargas et bien sûr la Madeleine de Proust. Alors hier, j'ai réalisé le gâteau aux pommes de Victor Hugo. Il en reste plus, je ne vous ai pas ramené, je suis désolé. En tout cas, ça s'appelle La cuisine des grands écrivains d'Emeline Bernard et Marc Lefrançois et c'est publié chez DBS. Alors, Christina, gros coup de cœur pour Les grands vivants de Claudius Pan. C'est publié aux éditions La Tribu. Les grands vivants de Claudius Pan.
Alors, pour commencer, je voudrais vous faire noter le titre qui est d'une poésie, d'une beauté extraordinaire. Les grands vivants, ça ouvre un champ infini devant le lecteur qui a tout de suite envie de se précipiter dans le livre. Bien entendu, vous vous doutez bien que ce n'est pas un vrai nom et que dans Pan, il y a quelque chose comme Peter Pan, peut-être, peut-être. Et puis, l'incipit, alors je suis désolée, je dis incipit et pas
incipit,
mais chacun son truc, hein, chacun son truc. L'incipit, le titre, tout indique donc qu'il y a quelque chose d'un conte, de la magie dans ce livre. Et un conte, oui, mais alors excusez-moi, c'est un conte pour adultes, hein. Un conte un peu vénéneux, arrosé à la sauce Magic Mushrooms.
C'est quoi ça?
Une soupe aux champignons qui vous fait
des champignons hallucinogènes.
Champignons magiques.
Faites pas semblant de pas savoir.
Ouais.
Je pense à nos auditeurs et auditrices qui ne parlent pas d'anglais.
Magic Mushrooms et plein de fées qui ne ressemblent pas vraiment à des fées de Charles Perrault. Bon, j'espère vous avoir donné déjà un petit goût, un petit avant-goût. Alors, Claudius, qui est à la fois auteur et protagoniste de l'histoire, est un jeune Français, issu d'une famille dans laquelle il étouffe avec des parents problématiques. Mais son meilleur ami, il est tout jeune, son meilleur ami, son amour, vient à mourir. Et là, il y a une catastrophe, elle ne s'en remet pas. Et il se demande comment il pourrait vivre vraiment dans les libertés. Alors, et dans ses rêves, tout un monde poétique. Et il trouve alors, en cherchant sur Internet, l'existence d'une communauté queer nichée au fin fond de la forêt, quelque part aux États-Unis. Ben les voilà, les fées. On les cherchait, les voilà. Il part là-bas et il découvre un monde dingo, un monde enchanté dans lequel chacun vit selon son désir et l'aventure commence. Alors peu à peu, Claudius, au fil des rencontres, trouve un monde, des marges, un monde enchanté.
Ça donne des idées autour de la table. Hein.
Inventif, coloré et un peu dingue, il faut bien le reconnaître. Et c'est là qu'il va vivre des amours, des créations, de la violence aussi, et lui-même au bout du chemin. Voilà, et c'est un livre de toute beauté, onirique, poétique et avec un style d'écriture un peu particulier dans lequel on se perd parfois, mais c'est voulu, c'est un labyrinthe.
Je vois, Guillemette, vos pupilles se dilater à l'idée de partager la vie de cette communauté.
Ah oui, mais moi je veux bien faire plouf, hein, puisque hashtag plouf, je veux bien faire plouf dans une communauté forestière queer. Moi, super. Non, mais
ça
j'adore.
S'appelle donc...
Oh, ça y est, j'ai le droit.
Ça s'appelle Les Grands Vivants de Claude Huspan et c'est publié à La Tribu. Vous pouvez le donner à Guillemette.
Je vais le donner à Guillemette.
Juste un mot sur la maison d'édition. C'est une maison d'édition qui s'appelle La Tribu, qui est toute neuve, qui a fait le mystère de la rue Transnonain aussi, et d'autres choses. C'est vraiment une maison d'édition à suivre. C'est très bien.
Allez, un poche que vous aimez offrir autour de la table. Sylvain Gédrézac, libraire à Montigny-le-Bretonneux.
Tout à fait.
Vous avez choisi Paris-Berry. De Frédéric Berthet, publié chez La Petite Vermillon, hein, c'est ça ?
Oui, à la table ronde. Alors, en fait, Frédéric Berthet, c'est un auteur. Moi, j'adore les étoiles, les comètes, les météorites littéraires. Frédéric Berthet, c'est une petite œuvre, cinq livres, dont un roman. C'est 49 années. On l'a découvert mort chez lui le jour de Noël en 2003. C'était le meilleur de sa génération, d'après Philippe Solers. Donc, c'est tout dire. Les deux livres à lire absolument, donc de Berthet, c'est Daimler s'en va et c'est Paris-Berry. Pour Daimler s'en va, c'est quelque chose d'absolument génial. L'auteur nous propose de passer une heure et demie dans la tête de Daimler. Il y a un flux de conscience comme ça, on rit beaucoup, on croise une jeune femme par exemple qui se balade avec un stéthoscope aux oreilles pour voir si les hommes qu'elle croise tombent amoureux d'elle. Ah. On croise des pigeons, on croise le héros aussi, le héros balance des petites pommes de terre sautées sur la vitre de sa voisine qu'il veut séduire. C'est absolument délirant, ça ressemble un peu à du Jaénada, mais avant Jaénada, Philippe Jaénada que j'adore. 122 pages à chaque fois, c'est très très court. C'est absolument, même Bonjour Tristesse est plus touffu, c'est absolument, ce sont des petites pépites, des petits bonbons à déguster.
Vous êtes comme Jaénada, vous êtes un roi de la digression, mon cher Sylvain Gédrézac. Ça s'appelle donc Paris-Berry de Frédéric Berthet, accompagné toujours à La Petite Vermillon à la table ronde, de Daimler s'en va. Yolaine de Chanot, L'homme qui rétrécit, c'est d'actualité. C'est de l'américain Richard Matheson et c'est publié chez Folio SF.
Oui, je l'avais lu il y a très très longtemps. C'est un roman américain culte de science-fiction qui a été publié dans les années 50, adapté en film immédiatement. Le film est culte également. Et je me suis replongée dedans parce que le réalisateur Ian Koonen sort une version du film là, le 22 octobre prochain, avec Jean Dujardin dans le rôle titre. C'est un très chouette film. Si on a vu la version américaine,
oui,
bon, on ne sera pas tellement époustouflé parce que c'est un copier-coller quand même, mes versions contemporaines. Mais c'est très chouette, ça raconte l'histoire d'un homme, il est tranquillement marié, il est père d'une petite fille, il est frappé d'espèces d'ondes radioactives et il se met à rétrécir, à rapetisser. Il est en bonne santé, mais il devient de plus en plus petit et ça, l'enfer commence pour lui. Il va se retrouver à vivre dans la maison de poupée de sa fille, à devoir s'habiller avec des figurines et puis il va se retrouver menacé par une araignée qui devient énorme. C'est plus un conte philosophique, un peu comme la métamorphose de Kafka. Tout son rapport au monde, à l'autre, à la survie est modifié. Bizarrement, la fin, je ne m'en souvenais pas, mais est moins désespérante que ce que j'avais lu à l'époque.
L'homme qui rétrécit de Richard Matheson chez Folio SF. Et là, je suis en train d'imaginer un mini Thibaut de Saint-Maurice là, qui serait poursuivi par un chat. Bon, j'ai des images qui me viennent pendant l'émission. Bref, il est temps de retrouver peut-être le dernier choix, le poche de Christina. Ça s'appelle Wilt 1 Tom Sharp. Et c'est chez 10-18, en quelques mots.
Oh, irrésistible. C'est un pur roman fantaisiste anglais écrit par un pape du genre, un dieu du genre.
C'est très très drôle. Hein.
Ah, c'est absolument hilarant, ça a été écrit dans les années 70, et là il s'agit, je vous dis quel est en gros le sujet, tout simplement d'un prof dans un lycée technique qui enseigne à des élèves bouchers ou des élèves mécaniciens, et il en a ras-le-bol de sa vie, il a une femme épouvantable, et c'est à vrai. Un moment donné, il se demande comment il va pouvoir arriver à tuer sa femme. Voilà, je ferme, mais c'est absolument
c'est
génial.
C'est irrésistible.
C'est vraiment un roi du genre.
Tom Sharp, ça s'appelle Wilt 1 et c'est publié en poche. Et vous pouvez retrouver toute cette belle sélection sur l'appli Radio France à la page Grand Bien vous fasse. Allez, dans un instant, c'est la punchline philo de la semaine avec Thibaut de Saint-Maurice. L'homme est un animal politique d'Aristote. En attendant, on écoute Little Sims et Lydia Kito qui interprète Only.
You wanna get swept in my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying a site MZ. I know you wanna live your dreams, baby. Girl from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, Margiela, the gold vest. London to Jamaica, Rome, my boonum. When you see the Rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh?
Don't you get me right if I
I can never give this up, even if I try. I'm reserved for you, they can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give you love, I give you love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice, it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go, baby. Understand when your house ain't a home, baby. Through the rain, we built up the courage. So now the harder they come, we rising above it. No, no. Tell you my truth, we ain't gotta move. Just enjoy the view on the roof. Call the owner, tell him we dining for two. If it's down to me, it be up to you. I'm the proof, I'm no one to choose, not no one to lose. Go.
C'est Lydia Kito interprété Only.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Mais qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon?
Si. Ben, si. Si.
Il a fini ses mots fléchés du Parisien Weekend. Il est prêt pour sa chronique Les Punchlines de la philo. Et Thibaut, donc ce matin, vous remontez à l'Antiquité pour nous parler de cette maxime punchline du philosophe Aristote, l'homme est un animal politique.
Oui Ali, alors ça se passe au 4e siècle avant Jésus-Christ, mais vous verrez, ça n'est pas sans rapport avec notre actualité politique de ces dernières semaines. Quand Aristote écrit donc cette phrase, l'homme est par nature un animal politique, il veut dire que c'est dans notre nature que de vivre en société. Sans cette sociabilité dans laquelle nous vivons, nous ne pourrions pas être pleinement humains. Et comme on n'est pas des dieux, en tout cas pas moi, et qu'on n'a pas envie d'être des demi-humains, en tout cas toujours pas moi, eh bien il faut essayer de comprendre cette affaire donc d'animal politique. Soyons un peu précis. Il y a certes tout plein d'animaux qui vivent en groupe, et il y a même certaines espèces pour lesquelles on utilise les termes de société animale, comme les fourmis ou certaines familles de grands singes. Mais Aristote, lui, utilise le terme politique. Donc, dire que l'homme est un animal politique, c'est dire que nous vivons dans des sociétés elles-mêmes politiques, là où les autres animaux ne font que vivre en groupe autour de liens d'intérêt.
Le lien qui nous unit est donc un lien politique.
Exactement. Mais alors, me direz-vous, Qu'est-ce qu'un lien politique ? Le lien politique n'est pas un lien strictement factuel. Nous sommes liés parce que nous vivons côte à côte. Le lien politique, ce n'est pas non plus un lien d'intérêt. Nous vivons ensemble parce qu'ainsi nous serons plus forts pour nous défendre contre le froid ou contre les méchants. Ce lien politique qui nous unit, ça ne veut pas dire non plus que nous avons tous les mêmes opinions politiques et que nous sommes d'accord sur tout. Et enfin, ce lien politique, il est aussi différent du lien amical, du lien amoureux ou du lien qui nous unit à nos collègues de travail. Pour Aristote, le lien politique, ce truc un peu mystérieux, donc qui unit les sociétés humaines au point de les distinguer des autres groupes d'animaux vivant ensemble, c'est un lien moral. C'est notre capacité à percevoir le bien et le mal et à avoir des valeurs morales communes, donc. Et le petit truc en plus, par rapport aux autres animaux, qui nous permet de développer ce lien politique, c'est la parole. L'homme est le seul animal à être doté par la nature de la parole, nous dit Aristote. Alors certes, les autres animaux ont une voix, comme l'écrit aussi Aristote, avec laquelle ils sont capables de communiquer, mais à travers leurs cris et leurs modulations, ils échangent des sensations, des faits, des impressions, comme le danger, le plaisir, la peur, la frustration. Là où la parole, c'est-à-dire un langage permettant d'articuler une pensée, rend possible l'expression de jugement. La parole est donc essentielle au lien politique, car elle permet d'échanger non pas seulement à propos de faits, comme par exemple ce qui est plaisant ou douloureux, mais à propos de jugements de valeur, comme ce qui est juste et injuste, bien et mal. Autrement dit, le lien politique est celui qui se tisse à travers le débat sur des valeurs. Et ce débat ne peut avoir lieu sans la parole. Où l'on comprend tout à coup pourquoi le Parlement s'appelle Parlement. C'est le lieu de la parole, des paroles que l'on échange pour exprimer des conceptions du bien et du mal, du juste et de l'injuste, sur lesquelles on essaye de trouver donc un accord pour qu'ils prennent ensuite force de loi et qu'ils façonnent la société. Mais ce lien politique ne se réduit pas donc qu'aux paroles des hommes et femmes politiques, il s'active dès lors que chacun, chacune de nous, nous nouons des conversations et que nous partageons nos jugements, même sur les sujets les plus ordinaires de la vie ordinaire. Ainsi, être un animal politique, c'est se souvenir que la part la plus humaine de nous-mêmes se trouve dans cette capacité à construire et à habiter des mondes communs en se parlant et en s'écoutant jusqu'à finir par s'entendre.
Les punchlines de la philo sont à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas ce soir à 20h, l'heure philo avec notre camarade Patricia Martin. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci Yolaine de Chano du Parisien Week-end. Merci Christine Appel-Edouel. Merci Sylvain Gédrezac de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux sur la ligne C du RER.
C'est ça.
Merci à Nathalie Romero à la programmation de cette émission, avec la collaboration de Noé Brabant. Merci Claire Destacan et Maria Pasquet pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Tila et Ravu. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron. Et lundi, dans le mag de la vie quotidienne à 10h30 dans la grande matinale, faut-il bannir les parfums d'intérieur, les bougies parfumées, l'encens, les sprays ? On fera ça avec 60 millions de consommateurs.